voilà, alors les filles se regardaient un peu en taillant, ça fait un peu bizarre. On a tiré comme ça encore quelqu'un. Je connais déjà certains d'entre vous. Moi, je suis Cécile Robert. Je suis une habituée du lieu-dit. Certains d'entre vous me connaissent. Je connais déjà pas mal de gens. Et on a, avec Océane, eu l'idée d'organiser un débat informel. L'idée est venue historiquement de. C'est sur c'est pas grave. D'André Bellon, avec qui j'ai écrit le suivi sur la démocratie, et Isabelle Marbéry, qui va arriver, qui est universitaire, qui est dans les lieux de la culture, dirons-nous. Et en fait, on s'est dit que, compte tenu des événements qui se déroulent en France, et notamment de la crise de la démocratie, qui nous semble s'aggraver, on va en discuter, durant l'heure, il serait nécessaire d'avoir des lieux de discussion qui soient débarrassés de tous les enjeux de pouvoir. Que malheureusement, souvent, les débats, pas seulement les soi-disant grands débats organisés par le président de la République, sont phagocytés à des fins autres que celles qui consisteraient à faire émerger une vision commune de ce qui se passe et éventuellement des solutions. Donc, on s'est dit, voilà, essayons de, dans un lieu sympathique, donc je remercie encore une fois Océane et le jury, d'avoir cette discussion tout à fait informelle sur la situation actuelle et les moyens d'en sortir. Alors, je précise que Océane, qui est gentil, nous accueille, mais il serait sympathique de soutenir, de soutenir dans son action physique. En consommant des boissons, et on peut aussi manger ici, donc n'hésitez pas à joindre l'utile à l'agréable. Donc mes petits amis m'ont proposé d'être maîtresse de cérémonie, sauf s'il y avait un avis contraire, je me plie à cette mission, qui présente l'avantage pour eux de me priver bientôt de parole. Donc il y a un côté stratégique pour eux, en fait, je jette mes derniers feux dans la rêve, en espérant toujours mes suspens, parce que la comédie italienne, Isabelle parvient, va être entrée par cette porte, c'est bien. Donc voilà, pour planter le décor. À partir de là, la parole est à qui de la prendre. Il y a une demande pour ça, on n'a pas envie de formaliser la chose en faisant des comptes rendus, des exposés de télévisés. Donc, sauf qu'il y en a qui veulent nous raconter leur vie, mais ça peut être passionnant. Mais on s'est dit que c'était mieux de discuter comme ça de manière informelle. Voilà, pour que ça m'arrête, là, parce que moi je parlais pendant des heures.
Je suis confuse, dans l'apéro. Pour prendre des photos, mais
on ne servira
pas pour ceux ou vous qui veulent pas voir leur image, parce que c'est un peu égalitaire. Hein. Mm-hmm. Et de toute façon, on n'a pas tellement envie de se servir des photos. Par contre, on enregistre parce que ça va être intéressant de retrouver ce qui a été dit, et éventuellement d'en faire un compte-rendu. Enfin bon, on verra. Je ne connaissais pas dans un souci de tout ce soir. Hein.
De dénoncer
ça pour
les
réseaux sociaux. Vous ne pas un que vous avez dit. Voilà. Après des années de succession de vagues politiques qui étaient tellement différentes qu'elles étaient identiques, on est arrivé à une situation bizarre, contradictoire. Tous les gens, ou beaucoup de citoyens, ont voté en pensant qu'il y avait le changement intégral, alors qu'en fait, ça fait la synthèse de tous les défauts des précédents. Bon, ben, voilà, maintenant, on va en parler. Là-dessus, est arrivé un événement parfaitement inattendu, c'est que des gens qu'on ne voit jamais se sont mis à la liberté. Et avec une constance qui leur fait honneur, mais c'est vraiment une surprise. Devant ce phénomène, le pouvoir, normalement, on cherche à faire des débats plus ou moins orientés. Le débat qui devrait déboucher sur quelque chose, mais apparemment, ce sur quoi ça devra déboucher, c'est vraiment ce que les citoyens veulent, mais ça, c'est pas du débat. Et donc, comment est-ce qu'on analyse cette situation? Quelles sont les perspectives qu'on peut voir par rapport à ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est large, mais après, on verra s'il faut reprendre en fonction de ce que chacun a.
Comment? Dans le cadre de la Constitution.
Ah, pour nous! Pour nous! Excusez-moi, parce que c'est nous qui avons fondé l'association de la Constitution, le débouché naturel, inévitable à terme, c'est l'élection de la Constitution. Ou l'officialisation du régime autoritaire. Ce que je me permets de rappeler, avoir appelé dans un article du monde diplomatique, bonapartisme constitutionnel. Je crois que l'alternative, elle est là, et elle sera là. Je ne vois pas comment elle peut être ailleurs. Et on officialise la dictature, ou bien on revient les dans le bon. Mais le bon, on peut penser autrement. Hein, donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous proposez, voilà. Et c'est mal organisé, hein, parce qu'il n'y a pas une tribune, et les gens, on aurait dû être tout mal. Oui, oui. Donc, c'est déjà, voilà.
Oui, bonjour. Moi, je signale simplement, je ne sais pas ce qui serait leur sujet. Je suis venu avec une problème de la France.
C'est pas du tout.
Je crois que j'ai eu avec vous, bien sûr, enfin, je ne connais pas trop l'association, mais on a eu des échanges de courriels ces jours-ci.
Il y a
tellement de problèmes.
Pour faire avancer la discussion, on veut dire.
Moi, c'est aussi, j'étais un peu frappé par le fait que. Je suis étonné de voir à quel point l'État est très mal géré. Épouvantablement mal géré. Alors, l'État peut s'exprimer également beaucoup, mais. Et je veux dire, les entreprises publiques, que l'administration elle-même, que, enfin, je suis concerné de voir. Alors évidemment, j'avais aperçu du bout du problème, mais là, j'ai l'impression que
Traverse
essentiellement le pouvoir exercer les apparences de la nature à l'auteur comme il est dit.
Oui, c'est vrai que c'est la fin. Je suis pas sûr que la majorité de santé le fait
après-midi.
Ah bah oui. C'est quoi le cas des
patients?
Oui. Je ne suis pas un adulte télé sérieux. J'écoute les enfants de conscience. Si je suis venu ce soir, c'est que je suis avec sa famille et les interventions dans le Bédélon. Si, en ce moment, elles sont excellentes, ce sont les très courtes vidéos. Je ne prenais pas plaisir. J'ai horreur des vidéos parce que j'estime qu'un texte, ça va utiliser beaucoup moins de temps à se lire qu'à subir une vidéo de une demi-heure ou etc. Les vidéos de l'environ ont cet avantage, c'est qu'on dirait 3 minutes et qu'elles sont extrêmement bien structurées, ce qui en général un grand thème à se lire. Et donc, c'est absolument, à mon avis, la vidéo qu'il faut persévérer dans ce sens-là. Ceci étant, pour moi, c'est peut-être pas aussi imprévu que qu'on peut le penser, parce que quand même, ça dure depuis 50 ans. Ça dure depuis 50 ans. Et c'est Macron qui révèle, en ayant fait un groupement qu'il appelle LRM, un mouvement qui n'a aucune consistance politique. Et là, il était lui, et les autres avant lui avaient une vague consistance politique, de technique, de socialisme, etc. Là, lui, il ne se dit pas ça. Il se dit simplement en marche. Donc là, on est en présence d'un homme qui a réuni une clientèle et qui, grâce à aux institutions actuelles, a pu prendre un pouvoir que j'estime absolument. Ceci étant, ce pouvoir absolu, il y en a eu pendant une année et un peu plus. Mais aujourd'hui, les sujets d'hommes ont révélé que ce pouvoir était sans aucune consistance et que par conséquent, pour moi, c'est pour ça que j'ai un petit papier. Macron s'est dit, il ne peut pas se relever. À partir d'un moment où on est sans consistance et que les gens s'en aperçoivent, on n'a plus aucun moyen de s'en sortir. Alors, il y a lancé un grand débat, c'est un grand débat, parce qu'un débat, ce n'est pas de parler, on n'a pas débat. Débat, c'est essayer de s'entendre sur une rédaction d'un texte. C'est comme ça que fonctionnaient les partis. Et c'est comme ça un débat. Ça, c'est un débat politique. Vous avez un texte, chacun donne son avis, chacun fait ses amendements. C'est pour aboutir à une décision. C'est pas pour parler comme ça, comme le fait Macron. C'est comme je dis dans ce texte. Tout ce qui va, tout le monde s'est dit qu'on doit en avoir parlé. Et tout ce qui va sortir du grand débat. Alors, ceci est quand même assez grave, et qu'ils vont en faire une synthèse, parce que finalement, au bout du compte, ils vont être obligés de faire quelque chose. Et donc, à ce moment-là, il devrait y avoir un débat sur les propositions. C'est là qu'il y aurait un vrai débat, et non pas des paroles en l'air. Le vrai débat se ferait sur un texte. Là, vous savez qu'on prend une question, et qu'on risque d'avoir d'aller de plus en plus dans une catastrophe. Parce que quand même, les appartements sont complètement pourris. Ce que j'appelle le système, c'est-à-dire le système Macron, vous avez le président, le gouvernement, l'Assemblée. Et ce trio-là forme un bloc. Un bloc dans les mains de Macron. Le gouvernement attendant, l'Assemblée exécute. Et avec ça, il n'y a même pas de parti politique. Alors, il n'y a aucun débat politique en France aujourd'hui. Et donc, on se trouve dans cette situation. Comment sortir là, là.
Non, mais là, ça va être encore un débat à parole. C'est pas un débat sur un texte écrit. Il faudrait que vous nous fassiez un texte écrit, des propositions écrites. Et bien, à un moment donné, avoir un débat. Là, on va parler comme Macron aurait pu venir écrit. Il aurait pu prendre le micro, il aurait pu dire.
Vous avez vu qu'il y a un débat démocratique.
Oui, c'est vous êtes d'accord. Alors, il y a quand même une très grande, un très grand bobard qui court en France, les anglo-saxons qui règnent sa cause. C'est que la France est une démocratie. Ça, c'est un vrai bobard. Jamais la France, aujourd'hui, c'est une démocratie. Et il y en a d'autres, des bobards. On en parle de la gauche, de la droite, etc. Tout ça, c'est des bobards. Ça n'a aucun fondement. C'est absolument, pour moi, des mauvaises idées.
Voilà à peu près ce que je voulais dire. J'ai écrit parce que je tiens un point de suite et pas de suite. J'ai dit ça parce que je vous l'avais dit. De façon à ce que quand même, on ait un reste de ce qu'on a dit et qu'on puisse voir si la situation est bien conforme à ce que l'on a compris à un moment donné.
C'est pour faire école. Le temps qui s'est écoulé depuis 1938 jusqu'à maintenant est supérieur à ce qui se passe entre la colline de Paris et la fin de la R14. Voire même, si on parle de temps synthétique, il faut considérer que par rapport à la période ici la colline, on est dans une immobilité institutionnelle et politique en France depuis une période extrêmement longue que l'on ne compare pas à d'autres périodes dans beaucoup de pays.
D'accord.
C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Donc, il y a un petit côté. Les gens qui partent de la situation actuelle qu'on est en stable. C'est une illusion absolument totale. La société se transforme radicalement en profondeur dans ses rapports. Ce qui sortira de ça et qui n'est pas très très utile sera une violence. C'est égal aux versions des deux pendant toute la période.
Alors, le micro, à qui veut le prendre? Avec son
qui veut parler.
C'est là qu'on voit que les citoyens sont modestes. Ils attendent d'avoir quelque chose à dire pour parler.
Ça va revenir à ça. Voilà, ça va revenir à ça.
Je voudrais que les états Pascal.
Ah, il y a un autre fond de parler.
Il y a là-bas.
Moi j'avais envie de partager juste ce que je découvre en ce moment depuis quelques semaines, à savoir les propos d'un monsieur dont vous avez sans doute entendu parler, qui s'appelle Abraham Brancourt. Et alors là, mon univers se perd, c'est-à-dire que de l'attraction, d'une déconnexion du pouvoir, avec les citoyens et tout ça. Là, c'est des mots sur lesquels j'ai du mal à mettre du contenu. Grâce à cet homme-là, qui fait une sorte de phrase d'une classe, hein. Bienvenue. Une image concrètement du fonctionnement d'une société qui effectivement circule en boucle. Et il y a deux choses moi qui me sautent à la figure. C'est tous les rois scientifiques instrumentalisés pour les carrières. Et tous les liens entre ces gens de cette casque, parce qu'on peut vraiment parler d'une casque en nom là-haut, ils sont tous d'accord pour s'aider à faire carrière. Et c'est en fait la seule chose, c'est vraiment la seule chose. Et du coup, évidemment, nous sommes démocratiques. Parce qu'il est plus question question de faire quelque chose pour résoudre le problème du chômage, une question de une question de carrière. Du coup, oui, la démocratie, là, c'est ça qui me frappe en écoutant les propos de cet homme-là. Alors, comme d'habitude, quand je dis que je dis deux choses, j'en dis une, la deuxième s'évapore, donc je l'ai plus dans ma tête.
Est-ce que vous pouvez préciser, à votre avis, pourquoi cette préoccupation de carrière prend le dessus sur le reste? Pourquoi il y a cette dérive d'instrumentalisation de la politique? Est-ce que vous pouvez en faire un peu plus?
Non, je ne peux pas, parce que je ne suis pas dans ce monde-là, donc je continue d'écouter cet homme qui nous décrit une classe que nous ne connaissons pas. Une classe dont nous ne connaissons pas les modes de fonctionnement, dont nous ne savons même pas dans quelles écoles nous vivons. On ne savait pas qu'ils allaient à ce point-là dans des écoles à part, je ne savais pas qu'ils allaient ce chemin-là à part le nôtre, en fait, prêt pour être à part le nôtre. Et même si je le savais d'une façon abstraite, je dirais que je le sais mieux maintenant. Et que du coup, ma résistance, elle prend une autre matière. En gros, c'est pas la peine de demander quoi que ce soit à ces gens-là. Ils ne donneront rien. Ça ne leur viendrait même pas à l'esprit. Et c'est bien le drame du fait qu'on est bien obligé d'utiliser la violence parce qu'ils ne donneront rien. Alors, moi je suis atterrée parce que moi je ne peux pas la violence, je n'arrive pas avec mes petits biens, enfin je ne peux pas coller comme ça ou démolir ou casser un truc, je ne peux pas faire ça, mais je vois bien que hormis ça, nous finissons de leur demander, ça n'est pas le propos. C'est pas le propos eux, enfin si j'écoute le grand cours en question, voilà, en plus j'ai quand même une confiance assez entière. Ils ont cette place parce que c'est la loi, enfin c'est leur loi divin, c'est le droit divin. Bienvenue à l'aristocratie, le droit divin.
Quelqu'un qui demande la parole là. Alors moi, le grand cours, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un journaliste, c'est aussi un avocat. Il a été l'avocat de Julian Assange.
de la hiérarchie des normes, rien que ça. Donc
tellement les rapports de force de l'entreprise vont être intéressants. Regardez la destruction de l'école, en ce moment, la fameuse école de la confiance. Au niveau du tour de langage, ces gens-là reconnaissent un don, une connaissance de la rhétorique et tout le temps. Enfin, ça ne tient pas longtemps quand on regarde les choses et qu'on n'est pas citoyen normalement informé. Donc ça, c'est excessivement grave. Regardez ce qui se passe à l'hôpital. Regardez ce qui se passe au niveau de la fonction publique. C'est pas rien. Les services publics, c'est ce qui permet à la société, en gros, de tenir debout. Ainsi qu'elle soit moins égalitaire que ce pourrait être. Voilà. Et puis, le dernier point, la régie de la peine. Vous voyez, c'est en fait. Et donc, par-delà, tous ces débats fumeux qui sont en fait inoculés pour masquer les vrais problèmes, voilà où on en est. Donc la société, effectivement, elle est très 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 malade, la République est très très malade, la démocratie n'en parle pas, parce qu'on est plus en démocratie. Et donc, un des anneaux citoyens relève des défis. Et le défi, là-dessus je suis d'accord avec André Delon, c'est où une révolution, c'est quoi l'exclusion, ou une libertinisme. Bon, vous me direz. Ou une conséquence, c'est-à-dire un changement d'attitude de la vie. Voilà.
Je suis rassuré,
hein. Parce que les gens là, ça va me faire bouger. Et alors, les questions qui ont été posées tout à l'heure par madame, je ne connais pas, mais que j'ai apprécié le discours, c'est que. Il a semblé qu'elle ne savait pas exactement ce qui va provoquer cette situation. Or, on le sait, il faut peut-être remonter un peu à l'histoire, parce que c'est un livre, ça fait 50 ans, ça fait exactement, ça fait à peu près 50 ans, en tout petit peu plus, mais en fait, ça a commencé par les guerres rouges, ça a commencé par les pays que nous, on appelle les guerres rouges. Jusque entre 1973, prise du pouvoir par Pinochet au Chili, et 2008, crise financière, il ne s'est rien passé en Europe. On a échoué à la clé de tous ces grands tremblements qui étaient prévus par ce qu'on appelle le néolibéralisme. Alors c'est quoi le néolibéralisme? C'est des gens qui, à l'école de Chicago, avaient des professeurs d'économie de l'école de Chicago, qui ont formé des élèves à ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, en fait, il faut abaisser le peuple. Anna Arendt, dans ses bouquins, dit une chose formidable, elle dit « L'objectif du capitalisme, ce n'est pas de détruire la population. » C'est de faire en sorte qu'elle ne soit plus rien. Et ça, c'est. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, ben, on a détruit les pays les uns après les autres, on a détruit l'URSS, bon, peut-être que c'est pas si mal, et on l'a transformé en une énorme oligarchie. On a fait la même chose au Chili, on a fait la même chose en Argentine, on a fait la même chose au Liban, en Indonésie, etc. Et puis, il y a un moment, le système néolibéral mondial s'est dit, mais comment est-ce qu'on fait avec l'Europe? Eh bien, c'est pas compliqué. Vous déclenchez une énorme crise financière. Hein, et puis, à partir de là, vous mettez aux gens, vous mettez au pouvoir des gouvernements qui sont aux ordres. Il y a une belle expression qui a été utilisée à l'époque.
François Ruffin,
oui. Il a fait ça, les jockeys de l'oligarchie. Alors, voilà exactement la situation. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? On peut dire que la seule façon d'en sortir, c'est créer la démocratie. parce que personne ici, je pense que personne ici n'aura le courage de nous dire qu'un jour ou l'autre, à part la commune, on a été en France en démocratie. La démocratie, c'est un peu ce qui a toujours été développé, et développé comment? Essentiellement, d'ailleurs, par le jeu des partis politiques. Parce que les partis politiques, ils sont très minoritaires dans la population, mais ils servent de rempart à l'oligarchie. Vous comprenez, il y a un système qu'on appelle démocratie, et qui en fait consiste à donner le pouvoir alternativement à ce que s'appelle, hein, donc c'est presque d'ailleurs, pour moi c'est du communautarisme, les partis politiques sont communautaires, pour moi, et donc, et ces gens-là, ils n'ont qu'une seule objectif, c'est de gagner les élections. Et puis après, ils ne savent pas comment faire, et puis une fois qu'ils ont gagné, ils ne savent pas comment faire. Regardez par exemple la France en marche, je n'ai pas encore vu un seul projet génial qui était développé par eux depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et donc, moi je pense que je suis assez d'accord qu'il faut se défendre pour instaurer la démocratie. Pas pour améliorer la démocratie, on dit par exemple le rythme. Bon, allez, c'est une bonne idée, c'est pas une mauvaise idée, disons. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on va faire. Moi, je suis allé sur le vrai débat. J'ai travaillé un petit peu sur le vrai débat. J'ai posé des idées. Par exemple, moi, mon idée, c'est qu'il faudrait supprimer les préfectures. Eh bien, j'ai eu des insultes. J'ai recueilli des insultes parce que les gens n'ont pas compris comment on les pointe avec une fausse démocratie. Donc, je crois que...
Alors que si vous comparez les deux, la République et la démocratie, La République, c'est le citoyen, produit le citoyen de la nation, produit la nation, il y a l'humanité. La démocratie, c'est l'individu. C'est d'abord l'individu, au-dessus de l'individu, il y a la société, et au-dessus de la société, il y a Dieu. Donc vous voyez que c'est incompatible avec une République française dont la matrice a été construite en 1905, à savoir la séparation des villes et des États, qui a donné vraiment cette vision, comment dirais-je, de la République française. C'est ce qui est rare, je crois qu'il n'y a que deux ou trois républiques dans le monde qui se sont séparées, enfin, qui ont séparé la vision de l'État, c'est-à-dire que l'État,
Tout était fait pour que je puisse en parler. Or, soudain, arrive
Mais tu sais quand même des questions. Alors bon, je ne dis pas que tout est bien, que tout est merveilleux. Oui, mais il y a des horreurs comme tout un chacun. Ils peuvent avoir des passions difficiles comme tout un chacun. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont apparus sur la scène, tu sais, des gens qu'on ne voyait plus et qu'on pensait disparus et dont le système avait décidé qu'ils ne devaient plus exister dans ce système. C'est la marge du système qui est devenue utile, et en plus, c'est des gens qui nous coûtent cher. Donc, on les voit apparaître, et en plus, ils posent des questions qu'on croyait, pas nous, mais enfin, que le pouvoir soit disparu. À savoir, nous sommes une partie du peuple et nous sommes des citoyens. Et donc, de remettre en avant des mots qui étaient considérés comme obscènes, hein, le peuple, c'est un populisme. Et donc, quelque part, pour nous, la construction, c'est le symbole autour duquel peut se coaguler tout ça. L'individu, la volonté collective, la reconstitution du peuple. Vous aurez remarqué que lorsque Macron a fait son appel aux citoyens européens, il disait du feu, hein. Sans, même pas parler du monde, hein. Donc, il est président de la République française, hein. Il y a deux mots qu'il n'a pas prononcé, mais il dit que c'est France. Oui, je veux dire que, quelque part, oui, pour moi, ça va le faire. Donc, quelque part, on a réussi, curieusement, ce qui s'est passé, à ressurgir idéologiquement des choses dont tous les pouvoirs successifs depuis des décennies avaient pensé se débarrasser. Et donc la Constitution, c'est le symbole de revenir à des choses selon les fondements même de la vie sociale et de la République.
Je vois Christian qui demande la parole, mais il y a des gens qui n'ont pas encore parlé, qui voudraient s'exprimer. J'ai pas l'impression de me lever comme ça pour tout le temps. Donc on va faire je vais faire passer la prochaine
fois. Le traitement des valeurs et des repères, moi je voulais faire un hommage significatif à je ne sais pas quel est son grade, un commandant de police, etc., qui a donné un ordre parfaitement judicieux d'éviter d'utiliser ou de ne pas utiliser des trucs qui vont des choses. Autrement dit, il a préféré éviter les morts, les blessés graves, plutôt qu'éviter le passage des victimes, et encore je ne suis pas sûr que ce soit lié, mais en tout cas, plutôt que le passage de biens matériels, pour moi je lui rends un plus grand hommage. Oui, il a été
En ce qui me concerne, je pense que la situation actuelle est le résultat d'un long processus libéral qui date au moins de la 5e République. Voilà. Donc je dis au moins parce que ça s'accélère de plus en plus. Donc, j'ai été longuement en réflexion, mais je suis convaincu qu'une constituante aurait sa place. Enfin, l'élection d'une assemblée constituante pourrait être une solution. Cela dit, comment ne pas retomber dans le libéralisme ou dans le populisme? L'hypothèse communiste ayant été bafouée depuis un certain temps. Voilà mon état d'esprit actuellement. Et la réflexion que je me fais, c'est est-il possible de faire une révolution? Quand je dis une révolution, c'est une révolution institutionnelle sans violence. C'est la question que je me pose.
Et on a constaté qu'elle se cristallisait dans le temps, en groupement, en action, en organisation, disons, collective. Parce que pour survivre, la survie est toujours un rapport de proximité. Toujours. Pour reproduire, mais pour travailler ensemble. Et l'origine des peuples est ce rapport de proximité. Et on ne peut pas concevoir une espèce sans qu'elle se constitue en quelque que ce soit en lien collectif pour survivre. Les décolleurs disent qu'ils ont raison. L'avenir de l'espèce humaine est en jeu dans Bon. Ce qu'on constate dans l'espèce humaine, c'est qu'elle a cristallisé les relations de proximité partout, en termes de communes, de souveraines, tribus, etc. Que ces tribus, en fonction, ils se sont élargis, en territoire plus immense. Ils se sont donné des structures, des états, des machins, des trucs. Maintenant, on est là. Il faut bien voir le caractère vital de ça. Et on oublie nous en France. Cependant, on est en train depuis 1958, etc. Tous les pays de l'État-nation autour de nous se sont développés. Il y a eu des révolutions, des machins, et puisqu'on a parlé de stratégie, un des problèmes clés maintenant, c'est que quand les États-Unis se rendent compte de quelles sont leurs capacités techniques productives, elles sont en déclin. Parce que moi, je ne sais plus préparer une autoroute aux États-Unis, construire une voie de chemin de fer. Moi, j'ai une carrière très très particulière. Je ne pouvais pas exprimer dans les questions de cadre technique ce que je pensais. Donc, quelque part, j'étais sous-marin de tous les gens qui me demandaient de construire des grands projets. Partout, en Amérique latine, etc., etc. Et ce qui est parfaitement clair, c'est qu'aujourd'hui, le problème clé, puisque le problème a été posé dans l'introduction, c'est qu'il y a un changement du potentiel de survie de ce qui se passe dans l'Amérique du Nord. À l'inverse, à la surprise générale, y compris de la mienne, ce qui s'est passé en Asie change l'équilibre du monde, change l'équilibre de l'espèce. Au-delà même des formes démocratiques ou pas, qui se passent. Et en Europe, c'est très, très important puisque, apparemment, Macron vacille entre je parle pour les États-Unis, je parle contre, je parle contre, je machin comme ça. On peut traduire ce qu'il dit dans ce rapport. C'est important parce que, de toute façon, c'est un oligarque. Son sponsor, personne ne le connaît, mais de toute façon, c'est un valet. Il n'est rattaché à aucune classe, il obéit, le matin, on lui donne une feuille de route et il fait comme ça.
Je dis ça parce que dans les fonctions que j'ai eues dans plusieurs pays, je sais pas, 5 ans, et j'ai été là, au Pays, etc., dans les grands conflits. C'est parfaitement clair qu'on sait, qu'on voit qu'il est un valet, qu'il n'est pas un valet. On est obligé de le savoir, de le construire pour faire des barrages, pour faire des outils, etc., etc. Beaucoup de gens, malheureusement, à gauche, n'ont pas une expérience, n'ont plus une expérience industrielle. Vous allez voir la langue, comme on avait avant, etc. Il faut bien voir ce qui se passe maintenant. L'espèce de modification, parce que finalement, tout un tas d'États, se développe avec des régimes qui sont plus ou moins.
Pendant plusieurs centaines de millions d'années pour que l'atmosphère soit respirable. C'est pour ça le terme. Donc, en fait, ce qu'il faut bien prendre compte, c'est qu'on est dans une civilisation. La civilisation, elle est fondée sur l'exploitation des énergies fossiles. Ça, ça aura un terme à échéance de, disons, quelques générations. Je pense que certains des vivants d'aujourd'hui verront la fin de l'extinction. Il y aura encore le charbon pour 350 ans, mais. C'est ce que les complexes. Donc, on a vraiment un problème de civilisation. Alors, on parle de transition énergétique, tout ça. N'oubliez pas que tout ça, ça marche aussi avec de la technologie qui a besoin d'énergie et des matières premières extrêmement rares. Sur les éoliennes, ça existe déjà avant. Je ne sais pas les problèmes techniques, mais en tout cas, on a un problème de civilisation. Et parallèlement, on a un problème institutionnel. Si on veut vraiment. C'est ce qui est en train de se passer, hein, fin du mois, fin du monde, même combat. C'est bien ça qui est en train d'émerger. Si on n'est pas capable d'accompagner ce mouvement-là, c'est-à-dire d'associer notre quête d'une structure de l'humanité démocratique, et ne nous laissons pas piéger par les mots, les Français ont cette tendance, hein, parce que c'est très piégé par les mots, ils discutent des mots pendant qu'il y a au lieu de faire des trucs. Hein. Bon. Nous ne laissons pas piéger par les mots. On a un problème effectivement de démocratie. Tout homme a envie que effectivement qu'on soit libre, mais on a aussi un problème de civilisation. C'est-à-dire qu'il faut que nos institutions soient capables d'affronter le problème que nous devons avoir l'humanité qui veut faire que les ressources fossiles sont finies. Et donc il faut trouver des solutions pour que l'humanité puisse. Et ça, c'est un vrai problème. La jeunesse en prend conscience aujourd'hui à travers le réchauffement climatique, c'est sans doute pas génial. Alors il y a une constante sur laquelle il faut qu'on soit très vigilant, tant pour les gilets jaunes que pour la jeunesse, et c'est bien de souligner, c'est que tout le monde se tourne vers le roi et on dit alors, qu'est-ce qui se passe? Tu fais rien. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Qu'est-ce qu'on fait? On veut une conséquence? Attendons-le. Attendons pas que ça soit Macron qui fasse. Si vous espérez que Macron va vous faire une assemblée constituante pour définir la démocratie demain, il faut continuer à faire des fonds dans les cafés, hein. Mais ça ne servira pas à grand chose. Alors aujourd'hui, il y a les mouvements sociaux, il y a les gilets jaunes, il y a la jeunesse qui est dans la rue. Si vous voulez vraiment qu'on fasse une constituante, eh bien il faut réussir à pénétrer ces mouvements et à leur faire des propositions. Ils sont capables de faire des réunions sur les ronds-points, pourquoi ils ne feraient pas des réunions d'assemblée constituante? Ils sont capables de faire des cahiers de doléances, on va dire, mais ils ne sont pas en mesure de comprendre que c'est à eux de définir demain la société qu'ils veulent face aux épreuves que l'humanité va rencontrer. Alors à partir de là, je pense qu'on pourrait travailler.
Oui.
Je vais peut-être dire des choses désagréables. C'est-à-dire que les artistes, en particulier le repère que nous avons, les maîtres du ciel, la trahison énergétique que nous trouvons sur le site de Babi. De Babi. Mais tous les artistes assez techniques. Et je crois que c'est la révolte que nous faisons, je discutais pas mal, avec tout à fait justifié, et compris celle concernant l'augmentation des actes d'urgence. J'en ai discuté avec pas mal. Il faut voir que la politique actuelle, c'est la destruction d'un pays, en l'occurrence la France, une nation de République, pour, au profit de l'Union européenne, qui détruit tout, et en particulier le défi de la SNCF. Il faut voir, c'était prévu. Un ami à moi qui est syndicaliste à la SNCF, on disait, dans une réunion, la directrice du matériel humain leur disait à des syndicalistes, vous allez vous broyer, on va tout privatiser, vous ne pourrez rien faire. D'ailleurs, j'ai écrit un article aussi qui s'appelle La France de Macron en marche sur les rails du quatrième Reich. Alors, concernant l'énergie, le problème est celui de l'électricité et la destruction d'EDF programmée. Et c'est absolument une honte parce que c'est un organisme public, national, de haute performance et garant de votre indépendance. Je m'excuse, c'est faux en ce qui concerne l'uranium et le thorium. C'est pas la même chose, mais on peut actuellement fournir toute la planète, hein, pendant
les deux.
Hein, c'est la même chose. Le thorium, c'est l'uranium de l'eau. C'est l'équivalent de l'uranium-238. Il faut le transformer en uranium-233. Il faut des réactions spéciaux. Il y a deux différentes formes. Je ne vais pas faire la cour, mais il y en a pour des centaines d'années. Hein. L'autre chose, c'est que pour moi, il y a un certain nombre de gens, c'est une escroquerie de faire des centrales nucléaires. C'est une trahison énergétique. La transition énergétique, c'est une escroquerie. Et on manipule la jeunesse sur le climat, la France est le pays le plus vertueux en matière de CO2. Il faut bien dire, nous. Et ce qui se passe avec, vous l'avez envoyé à André Bellon, une vidéo qui vient de Californie, qui confirme tous les chiffres qu'on a, il donne tout un tas d'informations, y compris sur la Corée du Nord qui sont exactes. On pourrait écrire, malheureusement, je suis plus un scientifique, le baratin, je préfère donner des chiffres à écrire. C'est une escroquerie par rapport à la jeunesse. On casse l'outil qui nous permettait l'indépendance, le travail et assurer un niveau de vie. On peut aussi faire de la. Pardon ? Oui, la Chine et la Russie. Il faut savoir que nous sommes capables, avec nos centrales nucléaires, de chauffer toute la France. Hein, la perte, la déperdition d'énergie de 2% sur 100 km pour la chaleur. Et c'était prévu, on a fait ça au profit des vendeurs de gaz. Alors, il y a quand même un moment où, de toute façon, je passe un certain temps à convaincre les gilets jaunes à discuter avec eux, parce que je crois que c'est le peuple qui prendra et qui refuse toute cette escroquerie de transition énergétique, etc. Le peuple de base a raison de refuser les augmentations de terre, parce qu'il ferme les lits, les gens sont obligés de prendre la bagnole, encore en plus, c'est une saloperie. C'est qu'on oblige des gens à abandonner leur vieille voiture sous prétexte qu'elle pollue. Moi, je vois, c'est honteux. J'ai une Twingo, on essaye de l'envoyer à la casse. C'est dégueulasse. Donc, à mon avis, la révolte, elle est franche. J'espère qu'on l'accompagnera. Pour l'instant, vu mon âge, c'est de décrire. Maintenant, le truc des médias et de tout ça manque à la population. Et la vérité, au moins les mensonges et les bidons, c'est honteux. Fermer les centrales nucléaires, cette semaine y compris, pour importer du gaz et des moulins à vent qui ne servent à rien, des panneaux solaires qui ne servent à rien, qui sont fabriqués en Chine ou ailleurs au profit d'opérateurs privés derrière lesquels il y a une mafia, c'est honteux. Et je pense que.
Il n'y a pas de mafia.
Non, derrière, les panneaux solaires, tout ça, c'est des clients très concentrés, il y a les gogos en bas. C'est pas vrai, le nucléaire est dans la magie publique et on a marre de traiter de lobby. On ne peut pas, c'est pas vrai, c'est faux.
Il ne faut pas avoir peur des techniques, mais d'une vraie technique, comme l'a proposé notre ami, d'où je parle. Moi, je suis un nucléophile de base. Il se trouve que professionnellement, j'ai toujours travaillé au Gaz de France. Ce n'est pas facile d'être un nucléophile de base, mais je pense que la question de l'énergie se pose en plusieurs facteurs. Il y a le facteur qui consiste à être une quantité d'énergie dans une demande d'énergie telle qu'elle est. Ensuite, il y a des questions de puissance. Le nucléaire, il est incontournable pour faire de la puissance tout le temps. Des énergies pas, comment dire, renouvelables, la plupart d'entre elles, sauf l'hydraulique, sont intermittentes. Or, le gaz, il se situe juste après le nucléaire parce qu'il est massivement stockable, il ne produit pas de poussière ni de SO2, mais je pense que nous sommes très mal informés sur les sensibilités aux choses et aux politiques publiques. Et ça, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du technique, il faut en faire, on est très loin de la, d'une politique publique raisonnable. Je suis complètement d'accord avec toi. Donc, sur cette CNAM, je n'ai pas les compétences pour connaître de spécificité ou savoir si on sait démontrer une centrale ou pas. Mais en tout cas, sur le fond, je suis d'accord avec toi. Je voudrais ajouter un point qui n'a pas été mentionné encore, c'est que ces incertitudes et ces mensonges qui peuvent être véhiculés le sont aussi pour la finance. Il y a un spécialiste de la finance mathématique qui a écrit un livre parfaitement éclairant, Le mensonge de la finance, les mathématiques, le signal prix et la planète. Autrement dit, la volatilité des mécanismes de marché fait que ceux qui ont besoin d'avoir un signal prix pour choisir, ben, ils n'ont plus. Et le troisième point, tout aussi tout aussi une réalité essentielle, c'est la question du numérique. Numérique avec toutes les incertitudes qui pèsent sur le numérique, tous les aspects de jeu de puissance.
Je
demande de parole au fond de la salle. Merci. Alors, moi, je vais être encore plus évasif. Je ne vais pas parler des nages. Donc, simplement, pour me situer, même si je suis aujourd'hui sur le terrain, j'ai 47 ans d'activité politique, 27 ans d'ici. Alors, nous parlons d'un type de conscience qui a du mal à se faire encore aujourd'hui, y compris dans le stade, en France. C'est qu'on pense, comme ça a été dit, de choisir de discuter des débats sur la démocratie, sur quelle société nous voulons, sur quelle politique de ceci ou de cela nous voulons faire. Mais en réalité, nous ne sommes pas dans ceci. Parce que notre pays n'est plus dans le pays. Notre pays n'est plus indépendant. Il ne l'est plus depuis le traité de Maastricht, il ne l'est plus depuis la Constitution européenne, et nous sommes dans un système où nous ne sommes plus maîtres de rien, déjà de notre droit, avec le principe de la suprématie du droit européen sur le droit national, que dans notre politique économique, notre politique sanitaire, notre politique énergétique, d'ailleurs, etc. On n'en finira pas, et maintenant notre politique étrangère et notre politique de défense sont menacées quotidiennement par telle ou telle initiative européenne ou américaine. Donc le problème de la situation dans laquelle nous nous trouvons est une situation qui est analogue, et les certains points sont très différents et pour l'instant loin tragiques, de la situation qui était celle sous l'occupation. La France était plus un pays indépendant. Et par conséquent, la première des choses et le premier des combats, c'est celui pour l'indépendance nationale. Sans l'indépendance nationale. Sans l'indépendance nationale, rien n'est possible. Et ça ne dit pas la démocratie parce que sur la planète telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a de démocratie qu'à l'intérieur de nations. La démocratie supranationale, c'est une dictature. Et on le voit aujourd'hui, il est en train de se passer avec les institutions européennes, de la constitution démocratique, de leur perception de leur fonctionnement, mais dont le but précisément est de casser les nations. Ayant dit ceci, et je voudrais remarquer que ces scènes-là, en force, ils commencent à émerger à l'intérieur du mouvement des dirigeants. Alors, ayant dit ceci, qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-ci? Il y a quand même des éléments d'optimisme. Le premier, qui est énorme, immense. Plusieurs ont dit, c'est l'existence du mouvement des dirigeants. mais cette chose qui était complètement inattendue. D'ailleurs, pour toute la révolution, on n'en sait pas. C'est l'historien qui dit si c'est une vraie révolution ou pas, nous on sait bien. Et comme tous les mouvements de type révolutionnaire, ça arrive, on le voit passer, et sous des formes qui sont comme on aurait dans l'imaginaire. Mais là, on est. Ce qui est remarquable, c'est que depuis combien ça dure, 7 mois, c'est pas, je crois. C'est la moitié de la population qui les soutient. Et en province, c'est pas encore le peuple, ça va pas trop fort. Je dirais que les gens parlent d'autant moins que ce soit des trains dessus. C'est 80-90%. Ils se sentent. Mais le deuxième élément que je vois, c'est que les vrais intellectuels en France aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais j'avais vu, évidemment, comme il y a beaucoup plus d'universitaires, de chercheurs, comme tout le monde fait des études, etc., c'est logique, c'est plus que dans l'intellectuel qu'il y en a eu, en pensée, et c'est pas des sortes d'établis, des gens comme ça, c'est pas dans ces domaines-là qu'ils sont, il y a des économistes, il y a des anthropologues, il y a des physiciens, il y en a aussi, il y a, etc. Ils ne sont pas connus du grand public parce qu'ils n'ont pas la parole dans les médias, mais dans leur domaine respectif, ils sont irrécusables. Et ces gens-là sont tous sur des positions au minimum critiques vis-à-vis du pouvoir, alors que la plupart d'ailleurs soutiennent les dirigeants, l'institution ou l'institution. C'est une première chose. Alors, j'en viens un peu à l'objet de ma présence ici, indépendamment du voisinage. C'est que, comme Joël a pris la parole tout à l'heure, Joël était parti, Sophie partie du comité d'amis, aller sur Internet, c'est le comité d'amis, je ne vais pas expliquer une petite société, ça existe depuis plus de 25 ans, ça s'est créé à travers Internet. C'est des gens essentiellement des gaullistes et des communistes, mais majoritairement c'était ça. La plupart, très grande personnalité. Le comité existe toujours, et vous stimulez les politiques, vous aurez des politiques. Et nous essayons de constituer, de lancer un appel dans la constitution d'un mouvement de libération nationale. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Si nous ne nous libérons pas, on peut discuter tant qu'on veut, ça ne passe pour rien, la situation continuera à s'aggraver. Et pour avoir été aux côtés des bénévoles de la défense à Paris, je peux vous assurer. Vous savez, la liberté de son pays, c'est la seule chose pour nous. C'est une chose pour laquelle on accepte de sacrifier sa vie. Et ce que j'ai vu, moi, à Paris, notamment en décembre, c'était pas le 5 mois, mais en décembre, je peux vous assurer que des gens jeunes, moins jeunes, qui étaient là, et c'est pas sacrifié. On n'était pas loin de ça. Et ce que j'ai vu des mouvements des gens à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne s'est pas produit au XXe siècle. Parce que la libération, l'occupation, c'est autre chose, et ça a rappelé, ça faisait penser au XXe siècle. Il y a tout ça, c'est ce qu'on va faire, la libération nationale à laquelle nous attendons, vous pourrez pas tout ça sur le site de Mali et sans doute, on est en route. C'est aussi bien pour des individus que pour des organisations, des idées. Donc voilà si vous voulez ce que je voulais dire. Bon, alors, je conclue sur le genre, si vous voulez. Je ne suis pas sorti se débarrasser de l'Union européenne, se débarrasser de l'euro, se débarrasser de l'OTAN et restaurer la République. On ne devrait malheureusement pas avoir de ce côté, notamment de la gravité de la situation, restaurer la République d'Haïti.
Voilà. Je salue l'invité Isabelle Parlé, qui est au début de la soirée, comme étant une de celles qui a inspiré ce débat. Je vous propose, au moment où on est de la discussion, de vous dire un petit peu ce que j'ai noté, juste à titre indicatif. J'ai vu apparaître dans l'intervention différents thèmes, dans deux ordres. Hein, la question de la destruction autour de nous, de l'école, des services publics, des retraites, de la démocratie, des hôpitaux, tout ce qui est public. La culture aussi, ouais, j'appelle bien là. J'ai vu aussi apparaître, évidemment, la question de la démocratie sous différentes formes,
est-ce qu'on est dépossédé par des élites qui parlent à notre place et qui sont en fait autoproclamés? Donc personne n'est désigné une cause. Est-ce qu'on a déjà été en démocratie ou est-ce qu'on n'a jamais été en démocratie? En tout cas, on va tous vers le constat qu'on n'est pas en démocratie en ce moment. Que c'est lié aux institutions, pour plusieurs d'entre vous, plus la 5e République, c'est lié pour d'autres à la situation internationale, l'Europe, la mondialisation. Il y a aussi la question du rôle des partis, qui est mentionnée comme étant un frein. La question du néolibéralisme aussi. J'ai vu en bras, j'ai vu apparaître aussi la question de quel sens a la problématique du changement climatique aujourd'hui par rapport à notre préoccupation de démocratie, avec ces deux intervenants, l'idée qu'il y aurait peut-être à s'interroger sur ce que c'est que le changement climatique et sa réalité, mais en tout cas,
c'est
de
bon.
Quel sens donner au changement climatique et quel est son rôle politique? Avec l'idée qui émerge, en tout cas, ça confirme que le citoyen est confronté à l'idée de ne plus être passif, quelqu'un parlait de balai, ou d'être demandeur, de subir les choses. Donc comment on fait? Parce que on demande des choses mais rien ne se passe, plusieurs d'entre vous l'ont dit. Avec le lien, bien sûr, et la question, on n'a pas beaucoup parlé des médias, qui en tant que journaliste me déçoit un peu, mais voilà, ça c'est l'artistisme contemporain. Le rôle des intellectuels dans tout ça. Plusieurs d'entre vous ont mentionné la question de la violence comme étant quelque chose qui s'impose à nous ou qui pourrait, auquel on serait obligé de se confronter parce que le système est donné. Plusieurs intervenants ont posé cette question de la violence qui vient. Alors qu'on n'a pas approfondi savoir ce qu'était notre position. Il y a certains intervenants qui disent non, nous refusons la violence, d'autres ont dit ça va nous tomber dessus. On a posé la question, bien sûr, du changement, du destin, que nous sommes maîtres de notre destin, et à partir de là, de la question des groupes avec lesquels on parle. Voilà ce que j'ai noté en bras, hein. C'est pas un résumé. C'était pour faire un pas au moment où on en est. Et est-ce que certains veulent réagir, reprendre certains thèmes, réorienter la discussion? Est-ce que ceux qui n'ont pas encore parlé veulent saisir le micro? J'ai dit que la parole circule. Isabelle, par exemple.
Oui, je trouve la question des mots très importante. Notamment, aujourd'hui, ce que je constate dans le mouvement, dans cette espèce d'élan quand même démocratique, et bien sûr qui me fait penser à des précédents révolutionnaires de plus jeunes, c'est en même temps les contradictions qu'il y a autour de tout le vocabulaire marxiste. Parce que d'un côté, on a affaire à un mouvement d'émancipation qui ressemble à un mouvement révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Et de l'autre côté, aujourd'hui, tout l'argumentaire marxiste, que désormais j'appelle post-marxiste, pour bien mettre ensemble le fait que c'est un marxisme post-moderne, et bien ce post-marxisme qui est un faux marxisme que l'on va retrouver dans les mouvements écologiques, dans les mouvements indigénistes, dans tout ces mouvements parcellaires qui sont en fait solubles dans le marché, mais c'est, je m'exprime, excusez-moi, je suis un peu confuse, je suis un peu fatiguée ce soir, mais aujourd'hui, ce qui se traduit, c'est que l'internationalisme du marxisme est devenu le meilleur allié, d'une certaine manière, du marché. Alors comment on fait avec ce bordel? Pardon de dire ça, mais comment on fait quand les nouveaux discours marxiste, cet héritage d'une idéologie normalement révolutionnaire, deviennent non seulement solubles dans le marché, mais en deviennent les principaux alliés. Et aujourd'hui, ce post-marxisme intersectionnel, etc., décolonial, il n'a qu'un seul but, hein, c'est effectivement de détruire, de pulvériser les luttes sociales et de détruire les dernières résistances contre le marché. Je ne sais pas si c'est clair, je suis un peu... Mais c'est sur l'utilisation des mots, parce que c'est assez utile de retrouver où on est maintenant.
C'est n'importe quoi, et bon, autrefois, on disait que les gens qui foutaient des Staliniens disaient que c'est le communisme, c'est tout libre dans l'alcool. Là, effectivement, le post-parti est plus connu dans le numérique, ça me paraît une bonne question. Enfin là, ça fait partie de la confusion générale.
Il y a des pays émergents, mais nous n'oublions pas les pays émergents, ils ont essayé de le rester. Parce que s'ils sont émergents, ils ont des ouvriers qui ne sont pas perséguer, et qui permettent de substituer aux ouvriers français des ouvriers chinois pour que la classe moyenne soutienne Macron, puisse continuer à se voir près, tout en votant avec bonne conscience, parce qu'ils votent contre le pays. Alors, comme ça, ils ont bonne conscience, ils ont des humanistes, ils ont des prix ouverts, ils peuvent continuer à voir un prêt, et en ayant un surplus de pouvoir d'achat, plus au chômage de leurs concitoyens, et avec le travail des prolétaires, des pays émergents. Donc, les trouver précis, avec un vocabulaire marxiste, on peut pas se tromper, maintenant, il y a des imbéciles partout, vous pouvez le prendre, hein. On ne dit rien, même s'il y a des jeunes, il y a des imbéciles. On ne peut pas imaginer, et ça c'est un défaut, vous avez imaginé que ces marcheuses et les couches populaires, ils doivent aller tous d'accord entre eux. Même dans les classes moyennes, il y a des gens, sous la Révolution française, il y avait des abbés qui étaient côté de la Révolution. Hein, donc, ça dépend.
Bah, il y avait des gars, par exemple.
Ah, au fond, hein. Est-ce que vous êtes, enfin probablement, mais comment vous êtes pensé sur le contre-pouvoir? Comment on organise le contre-pouvoir quand on exprime, quand on fait un peu une constitution? Parce que ce à quoi on applique cela, c'est une espèce d'effondrement du contre-pouvoir.
C'est parce qu'on s'est fait voler les mots qu'aujourd'hui on ne sait pas où on en est. Le mot démocratie, par exemple, il est utilisé par tout le monde n'importe comment. Je prends deux exemples. Démocratie participative. Est-ce qu'il y a une démocratie qui n'est pas participative? Sauf que lorsqu'on dit démocratie participative, ça ne veut dire pas démocratie. C'est un autre sens.
des foules d'assemblées pour décider d'être à la planche devant la mairie. Donc ça marche pas de soi. Hein. Par contre, les grands problèmes, on n'en parle pas, ça sort dans la démocratie participative. La fois de même, d'ailleurs, c'est sur les traités européens. Alors là, il n'y a pas question d'en parler, il y a des gens qui savent, et c'est fini. Autre exemple, le déficit démocratique. Extraordinaire, cette invention. Bon, moi, j'ai cette idée de ce qu'est un déficit, que je suis arrêté plus ou moins dans la profession, il y a un actif et un passif. S'agissant de l'Union européenne, je vois bien le passif, je l'actif, j'ai du mal parfois. Il y a un déficit démocratique. Ça permet de dire qu'il y a des biens et qu'on va avancer vers plus de biens. Mais tout ce vocabulaire bizarre qui s'est imposé dans le discours et qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle. Lorsque nous parlons de démocratie, et ça, je ne suis pas votre question, mais avant, si vous permettez, avant de parler de dictature de la majorité, je dis qu'il faut d'abord qu'il y ait une majorité et qu'il n'y ait pas de dictature de la minorité, par exemple. C'est un peu la mode en ce moment. Mais c'est tout sauf la majorité. Alors d'abord, vous voyez la majorité. Or, la majorité, en l'état actuel des choses, pour qu'elle rétablisse la réalité, il faut qu'elle s'appuie sur quelque chose qu'on appelait autrefois la souveraineté, mais je sais que c'est un mot péjoratif. Mais la souveraineté, c'est-à-dire d'avoir les moyens de maîtriser son propre destin. Tout simplement. Et ça, je crois que c'est une chose qui a été abandonnée. Pourquoi? Parce que tout a été fait sur le plan idéologique pour qu'on pense qu'on ne peut pas. On parlait tout à l'heure de la question écologique. Bon, il y a incontestablement un vrai débat, un vrai problème. Hein. Cela étant, qui gère cette question? Jusqu'à présent, tout le discours idéologique est fait pour que ce soit les mêmes qui le gèrent, c'est-à-dire pour aller, comme le dirait l'excellence à Catalyse, vers un gouvernement mondial. Ça, c'est bien. Donc l'écologie est instrumentalisée pour le gouvernement mondial. Donc, on voit dans ces citoyens, au plus près de leur lieu d'existence, qui maîtrisent un certain nombre de choses. C'est bien pour ça que quand nous disons élection de l'Assemblée constituante, on dit partons des communes. Ou des quartiers, donc. Bon, ça dépend de la taille de la commune, bien évidemment. Mais toute la question, elle est là. Lorsque je vois, par exemple, de ces grandes manifestations de jeunes sur le thème Manif pour le climat, oui, bon, j'adore. Personne n'est contre le climat. Ça veut dire quoi une manif pour le climat? Ça veut dire une manif contre quoi? Contre qui et avec qui? C'est ça la question. Et elle pose la question, effectivement, de la démocratie. Alors ensuite, que la démocratie, je ne veuille pas dire qu'il y a soudain une espèce de démiurge qui dirige tout, oui, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut des équilibres entre les différents pouvoirs. Il faut sans doute, moi je suis assez d'accord avec les libertés, il faut renforcer le pouvoir communal. De ce point de vue, il n'est pas homogène. Il y a des expressions qui sont différentes suivant les lieux, suivant les problèmes, suivant les inspirations, suivant les réalités concrètes qu'on vit. Et puis tout ça s'harmonise vraisemblablement à un niveau central, mais toujours dans l'idée, nous sommes le souverain. Et si nous sommes le souverain, c'est que d'abord nous exprimons notre volonté, et puis nous faisons en sorte que cette volonté ne soit pas oppressive. Bon, mais c'est ça le sens de la Constitution. Le rapport est effectivement de ses épisodes. Mais il y a eu quand même pas mal de penseurs, je pense à Alain, par exemple, au début du XXe siècle, qui avait travaillé la socialisation de Constitution. Mais. Avant, pour les grands pouvoirs, on parlait du pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun contre-pouvoir, c'est pas rien. Et, quelque part, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que l'élection inconsciente, c'est purement symbolique. Il ne faut pas que ça soit l'idée, on va refaire les institutions dans la 6e République. On est très hostile au premier titre de la 6e République. C'est un problème clé en main. On vous apporte un truc et vous terminez.
Non.
Il faut que ça soit l'issue d'un mouvement collectif et en même temps individuel. Ce qui m'a frappé, c'est les gilets jaunes et les revenus, c'est qu'à la fois
ils ont retrouvé leur existence, que c'était nié, mais en même temps leur collectif, ils sont ensemble. Le nombre de fois aujourd'hui, on a trouvé d'autres, on a fait parler. Ça, c'est la reconstitution d'un peuple. Voilà.
Oui, je rebondis sur la question de madame. Comment est-ce que la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est forcément qui est l'outil. On devrait se dire qu'il va y avoir une constitution qui va être démocratique. Ça serait quand même peut-être une bonne idée. Parce que les constitutions qui ont été créées jusque-là, elles n'ont pas été créées démocratiquement. Celle de la 5e République, c'est une véritable honte. De ce groupement qui s'est mis dans un cabinet et qui en 20 jours a sorti une constitution qui collait à la station de commandeur. Pour moi, la constitution, c'est le peuple assemblé. C'est-à-dire qu'il doit y avoir vacation du pouvoir pour qu'il y ait une constitution, je dis une constitution. C'est le peuple assemblé, alors le peuple assemblé d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne va pas mettre 64 millions de personnes ensemble, mais c'est le peuple assemblé qui doit pouvoir, à mon avis, décider. Alors les problèmes, on les connaît, les problèmes. Si vous allez sur les sites des gilets jaunes ou n'importe quoi, vous allez voir que les problèmes, ils sont connus. Hein. Et les problèmes du plus grand nombre, ils sont connus, évidemment. Les classes moyennes et les classes supérieures, elles n'ont pas les mêmes problèmes que les ouvriers et les paysans. Hein. Mais ça a toujours été. Par contre, il faut savoir comment est-ce qu'on définit avec de tels clivages l'intérêt général. Alors, je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à la production du climat. D'abord, je voudrais dire que ceux qui sont amusés à faire le calcul, comme moi, peuvent vous dire que nous sommes aujourd'hui 7 milliards sur la Terre. Et si vous prenez un tableau Excel et que vous mettez le coefficient d'augmentation annuel de la population qui est de 3%, eh bien, à la fin du siècle, ça vous donne 35 milliards. Alors, moi je ne sais pas, mais les grands savants, les grands théoriciens, ils feraient peut-être pas mal de se pencher un petit peu sur cette question. L'électricité, oui, on parle d'électricité, mais il faudrait peut-être éduquer les populations, parce qu'il y a un chiffre qui m'effraie, c'est que en 2030, la consommation d'électricité par rapport à 2008 aura doublé à cause de l'informatique. Donc, il faut quand même se poser des questions. Est-ce que quand vous envoyez un mail où il y a eu 25 mails précédents et que vous les renvoyez à chaque fois, posez-vous la question de savoir quelle est la puissance que va utiliser le serveur pour faire cette manip-là. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais dire sur le climat, c'est que on dit aux gens que vous êtes des gaspilleurs, vous avez chauffé vos maisons, vous vous rendez compte quel crime chauffer vos maisons. Hein. Bon, et puis, en réalité, il y a une statistique qu'il faut absolument connaître. C'est que les 8 plus grands portes de conteneurs du monde consomment plus de fuel que l'ensemble des voitures du monde. Donc c'est peut-être à ça qu'il faut s'attaquer. En plus de ça, ils polluent les airs avec leurs déchets. Donc c'est peut-être à ça qu'il faut s'attaquer avant de s'attaquer à la population française. Moi, je suis thermicien de formation. Je peux vous dire que les histoires d'isolation des maisons, c'est des pipeaux. On vous fait dépenser des fortunes, on fait dépenser des fortunes à l'État, parce que ça les fait subventionner, pour finalement des résultats qui soient extrêmement maigres. Et puis de toute façon, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que quand vous êtes dans une maison, si vous n'avez pas vos 360 mètres cubes d'air qui viennent de l'extérieur, d'ailleurs, et bien vous allez crever. Donc, c'est pas...
Je voudrais revenir sur cette histoire de démocratie, parce que c'est un mot qui est vraiment trop employé. D'abord, il faut savoir qu'en grec, démocratia, pour Aristote, c'est péjoratif. C'est un mot péjoratif. Pour lui, démocratia, c'est un million de traducteurs, c'est la démagogie. Donc, la démocratie,
principe de racisme. Pour Rousseau, la démocratie ne peut pas exister. Elle ne doit pas exister puisque le peuple est souverain, rien que pouvoir législatif, et ce qui prend aussi le pouvoir exécutif pour exercer la démocratie, il est à la fois juge et parti. Par conséquent, la démocratie, c'est quelque chose, si vous voulez, on dira en mathématiques, c'est une asymptote. Ça ne peut pas exister. Et ça, on peut s'en rendre à avoir plus ou moins de démocratie, mais il n'y en a pas. Alors, j'aurais voulu aussi quand même, je trouve que le débat vous éloigne quand même de l'idée, des idées premières qui nous sont ici, les idées de l'instant présent, puisqu'on était réunis à l'association pour une nouvelle constitution, je trouve qu'on n'a pas assez parlé des défauts de la constitution actuelle, parce que si on ne sait pas très bien ce qu'on peut mettre dans une autre constitution, on sait très bien qu'il y a dans la constitution actuelle des choses absolument à réprouver. La première chose à réprouver, c'est que la constitution actuelle dit qu'il y a des représentants de la souveraineté. Où est-ce qu'elle a vu ça, la constitution? Le propre de la souveraineté, c'est de ne pas pouvoir être représenté, justement. Et le premier mot qu'emploie la constitution, c'est que la souveraineté s'exerce à partir de ses représentants. Alors, vous rendez compte dans quelle constitution on est. Dès le départ, elle est faussée. Alors, vous avez un président et vous avez un suffrage universel. Vous avez un président qui se dit tout l'instant, etc., etc. Mais tous ces défauts qui conduisent à la macronie, qui conduisent à un système où le président, le gouvernement et le Parlement forment un bloc absolument dérivé et pour lequel personne ne peut rien. C'était là le but, j'aurais voulu qu'on parle, mais je ne suis pas arrivé tout de suite dans des réunions comme ça. Ça diverge trop. Je pense qu'il ne faut pas faire des réunions sans un ordre du jour précis.
Là, le bloc, il est en train de se fissurer quand même.
Repartir des mots, avec des mots, mais quand même, si on ne fait pas un ici, c'est bien parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas en français. Parce que la question de la langue est constitutive de la capacité que l'on a à échanger et à porter des choix. Et moi j'ai été scandalisé quand il y a eu une circulaire dite Molière, on se faisait passer pour un fasciste, parce qu'on disait que c'était pour empêcher les migrants de venir travailler au travail. Désolé, dans un collectif de travail en France où l'on parle français.
Cette question de la représentation, de la souveraineté, du vivre ensemble, ça fait très longtemps que pareil sur les débats parlementaires. Et en étudiant le discours même des députés, indépendamment des contenus de cette étude, il est apparu à travers leur discours à eux que la question centrale, c'était la question du vivre ensemble, que nous avons dit tout à fait au début, sur laquelle on n'est pas revenu depuis. Comment on fait pour vivre ensemble? Alors, la question s'est posée théoriquement, quand j'entendais les amorces de discussion sur la question du nucléaire, c'était pas bien ça, moi ça m'envoyait ça, c'est-à-dire comment sur des questions comme ça, on prend des décisions collectives ensemble. Alors, bon, moi je dis dans mon chien que pour qu'il y ait vivre ensemble, il faut, quelles que soient les formes qu'on donne, des pouvoirs, des contre-pouvoirs, des différentes nations et tout, il faut un lieu, un temps où la nation s'assemble. C'est-à-dire que le bouquin s'appelle d'ailleurs le Parloir de la Nation. Et un lieu donc, où la nation s'assemble et comment ça s'assemble? Alors, Alors, évidemment, il y a quelques-uns qui ont lu le truc et m'ont dit, oui, mais l'Assemblée d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça, elle n'assemble rien du tout, elle joue un rôle, on l'a dit, surtout avec l'Assemblée de Macron, là, et tout ça, bon, ça c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien du tout. Mais, quelles étaient les alternatives? S'il n'y a pas une Assemblée, s'il n'y a pas une Assemblée où tout s'assemble, c'est des alternatives. L'alternative, c'est soit la technocratie, une technocratie mondiale, etc., ou des grands esprits, des grands tout, soit on revient à la question du roi. Et on est en train de dire, justement, avec Macron, hein, qui dit, lui, il veut incarner, justement, cette transformation. Et bon, je ne sais pas, c'est pas vers là qu'il faut aller, mais il faut affirmer. Ce besoin d'une assemblée, après les formes, qu'est-ce qu'elle est par rapport à d'autres choses, et tout ça, comme ça, c'est un petit peu le scénario, mais le principe d'un lieu et d'un temps où c'est d'abord le vivre ensemble, et c'est constitué la nation. Si tant est qu'on veut être bien, concevoir que la nation est aujourd'hui dans la forme de ce que l'on est un passage de moins vivant vivé, c'est pas. Et ça, c'est la nation, c'est le super truc, c'est ça. Mais dans l'état actuel des données françaises, mondiales et européennes, mondiales, la nation est indispensable. C'est indispensable, c'est
voilà. Voilà.
Moi, je travaille sur mon théâtre, parmi les francophones, on va dire. Il y a plusieurs choses que je voulais dire. D'abord, vous avez raison qu'il y a deux types de. C'est déjà un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a à la fois. Une nécessité de parler à une échelle plus locale, à l'échelle d'une nation, et puis il y a aussi une nécessité à parler à une autre échelle, à une échelle plus globale, et d'échange, et de communauté qui dépasse les identités locales. Ça me semble absolument important de ne pas perdre de vue ces deux choses-là, et de voir comment on peut les articuler. Parce que, très simplement, on sait tous ici que notre production des chefs est basée sur les échanges internationaux, qu'on est confronté à, ça va dire, ça peut changer, mais enfin, on peut anticiper, on est confronté à des questions, la question énergétique, les questions éthiques, les questions environnementales, les questions du féminin et du masculin ne posent pas à l'échelle du masculin, ne posent pas à l'échelle d'un peuple. Ça, et c'est ce qu'on a vu. On a vu qu'est-ce qu'on vivait il y a un an. On vivait une autre vie de la rue, une autre vie de l'opinion, qui était sur une autre question qui était celle de demande de droit, d'égalité, homme-femme, femme-homme. Il y a ce qui, moi, je vois, c'est que la rue redevient un lieu politique, un lieu avec une spontanéité, avec une pluralité, avec une difficulté à élaborer, mais c'est normal, c'est la rue. Et ça, c'est très important que la rue redevienne un lieu politique. Parce que, d'abord, ça montre qu'il y a une mobilisation. Ça montre qu'il y a une énergie politique. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est très intéressant, chacun s'estime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'attends, et je pense que le défi est celle du consensus. C'est de d'élaborer ensemble. Ici, il ne s'agit pas. Je pense que pour élaborer, pour exprimer, mais moi, je pense que. Dans le temps présent, ce qui compte, c'est l'élaboration. Et une élaboration qui soit collective, soit commune.
et j'en ai parlé à Cécile, j'avais proposé certaines choses, mais c'est-à-dire que quand monsieur se pose, dit voilà, la transition est une expression, ça m'intéresse profondément parce que c'est pas ce que je ressens, et c'est pas ce que je ressens, ce que je pense, etc. Donc ça m'intéresse. Parce qu'il y a contradiction, et donc forcément dans cette dissension, dans ce hiatus, moi je ne comprends pas, par exemple, votre position. Mais justement parce que je ne la comprends pas, j'en suis curieux. Ensuite, je voulais dire aussi, il y a quelqu'un qui a dit on n'est pas un problème de civilisation vis-à-vis des énergies fossiles. Moi, je crois que c'est un âge, c'est pas forcément la civilisation n'a pas commencé avec les énergies fossiles. On a quand même une histoire plus ancienne que cela. Mais par contre, c'est un âge. Comment ? Je crois, pardon ? Voilà, mais c'est un âge au sens fort. C'est-à-dire que c'est un temps où, et je vais terminer là-dessus pour entendre, etc. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse le plus dans les questions qui se posent à nous, et surtout à nos enfants, et aux enfants de nos enfants, sur les tensions climatiques, c'est que c'est enfin quelque chose qui vient contrer la production du vivant. Enfin quelque chose qui vient se mettre un caillou dans le pied du capitalisme. C'est ce que je sens. Je sens que il suffit de regarder, de se souvenir ce qui se disait, comment les questions écologiques étaient moquées profondément à la fin des années 60, à la fin de... pour voir que tout d'un coup, on sort, il y a une espèce. Alors, la prise de conscience, elle est, je veux dire qu'elle est naïve, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du vivant. Et c'est pour ça que ça vient, je terminerai là-dessus. C'est qu'on est confronté à une guerre, c'est-à-dire ça va faire des victimes, ça va défaire des sociétés, ça va faire des mouvements migratoires, comme les guerres, mais c'est une guerre dont on ne connaît pas l'ennemi. L'ennemi, il n'est plus défini comme avant, il était défini par la guerre. C'est une forme de chaos, de dérèglement, de dynamique, et on est confronté à réagir à une menace qui n'est pas fabriquée par une culture précise. C'est beaucoup plus vaste qu'une culture précise. C'est un mode de vie. Et ça, évidemment que ça va nous bouleverser, ça va vouloir se défendre des menaces.
Je vais demander la parole au Pierre Romain. Et après, bon. Oui, j'ai fait une intervention tout à l'heure qui est un peu globale, mais je voudrais quand même revenir sur le rappel à l'ordre. On est venu pour parler de la Constitution. Ok, je suis totalement d'accord. Nous sommes dans une histoire. Nous avons un peuple qui est son histoire, et de niveau culturel. Le niveau culturel, il ne permet pas de constituer de la diversité. Il n'y a pas, il n'est pas informé suffisamment de ce que vous voulez dire. C'est ça aussi le problème de la démocratie. Donc si on fait une constituante, il faut tenir compte. C'est-à-dire que la constituante, ce n'est pas non plus la définition de la société idéale du monde et de son fonctionnement parfait. Évidemment, c'est le fonctionnement meilleur possible à l'état historique. C'est l'état historique d'aujourd'hui. Donc, soyons concrets. Effectivement,
C'est l'état politique. On peut faire un travail, des travaux pratiques de démocratie, puisque là on est à une échelle suffisante, mais on fait pour réussir à enclencher aujourd'hui. Ça conseille, hein. C'est un travail pratique de démocratie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour enclencher le démarrage de la définition d'un projet de constituante adapté à la situation de notre pays aujourd'hui? Effectivement, tout le monde est ici, je suis d'accord, on n'a pas parlé des défauts de la cinquième, parce que on est tous convaincus, complètement dit. Bon, d'accord. En tout cas, c'était une constitution qui a été faite à un moment de l'histoire pour résoudre un problème particulier, qui était pour le
colloque. Ça ressemble beaucoup aux autres.
Voilà, c'est des détails. Bon, mais on pourrait très bien donc décider de commencer à jeter sur le papier quelque chose, à partir de, pas seulement de Rousseau et tout ça, parce que Rousseau ne connaissait pas l'informatique, ne connaissait pas l'histoire, il connaissait pas. Il y a une aujourd'hui. Mais bon, il y a quand même un. Mais on pourrait commencer à faire quelque chose et le proposer à des populations qui, justement, aujourd'hui, sont en mouvement, sont en demande, ont des idées peut-être tardives, peut-être, mais qui sont sans doute capables de recevoir un message et qui attendent tout avec eux. Alors, je sais qu'ils se réunissent à Saint-Nazaire, ils font des grandes assemblées. Pourquoi on ne va pas leur dire, voilà, écoutez, nous, on entend ce que vous dites. Votre référendum d'initiative populaire, si ça consiste à demander au roi d'être gentil avec nous, ça ne suffira pas. Nous, on vous propose votre piste, sans leur dire voilà la constitution qu'il vous faut, hein, mais on leur propose notre piste. Soyons pragmatiques. Cessons d'être théoriques, soyons pragmatiques. Ce qui n'exclut pas, je garde vous quatre, ce qui n'exclut pas d'avoir une idée des problèmes que l'humanité va affronter. On en discute, moi j'ai rien contre le nucléaire, hein. C'est pas du tout mon propos de dire que je dis simplement que il faut pas non plus à chaque fois reprendre des dieux, parce qu'on a fait des reprises en philosophie, hein. C'est-à-dire reprendre des dieux de conflit, des dieux débats sur des sujets nouveaux. Le sujet nouveau, c'est vraiment l'avenir de l'humanité, donc on entend, et nous, à notre échelle, à l'instant qui est présent, soyons pragmatiques. Alors, puisqu'on n'est pas très nombreux, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je n'ai pas du tout juriste. Moi, je demande qu'un truc, c'est que quelqu'un m'aide à définir une constitution. J'ai lu les six constitutions de la France, j'ai lu, mais c'est pas terrible, là. J'en ai reçu, c'est des choses. Mais faisons quelque chose, accompagnons-nous avec des spécialistes, nous vont nous dire ça bien sûr, parce que c'est très bien. Mais pour moi, jetons sur le papier quelque chose, mettons-nous un temps, mais tout le monde.
Oui.
Vous avez
un livre. Il y a deux choses que je voudrais couper. D'une part, cette question des mots. Alors d'abord, quand on parle de constitution de la République française, il y a un mot qui apparaît et un autre qui n'apparaît pas, initialement. Le mot qui apparaît, principe, et le mot qui apparaît, ça, c'est valeur. Vous connaissez la formule de Montalembert, réactionnaire, catholique, progressiste, républicain. Il disait, lorsque vous êtes au pouvoir, au nom de vos principes, nous demandons nos droits, et quand nous sommes au pouvoir, au nom de nos valeurs, nous supprimons les vôtres. Hein? Voilà. Ça, je pense que parler de valeur, c'est une hérésie du point de vue. Et un deuxième mot, c'est le mot civilisation. Voilà. Je crois que la civilisation française n'est pas la civilisation anglo-saxonne, dont en particulier américaine, dont Clément Sauvignon a dit ceci, ils sont les seuls à être passés directement de la barbarie à la décadence. Et je crois que ce qui caractérisait la question, l'une des caractéristiques de la perte de souveraineté du peuple, c'est le mot dette. Quand on prend la dette au sens de marché, c'est une dette brute, tandis que ce qui a justifié la banque en 1980, sous la droite, 40% de l'économie commerciale était sous contrôle de l'État. Actuellement, c'est 15%. On a tout bradé et on a perdu des recettes énormes et on a perdu des moyens d'action par cette privatisation. Ce que le CNR avait fait, c'est
relationnalité, mais bien avant lui, le roi, la République. Donc, c'est une question fondamentale. Je sais qu'il y a beaucoup de grands intellectuels qui ne connaissent rien d'industrie, qui ne connaissent rien de la physique, qui ne connaissent rien des temps, qui prennent tout ça pour de la merde, de l'étude. C'est ça aussi que je le ressens, ainsi que beaucoup de mes copains. Mais il faut le dire. Et je crois que l'un des trucs, par exemple, sur le mot peuple, ici, alors, dans Marx, il faut dire que dans l'idée de Marx, c'est la propriété des outils de travaux. Travail, vous dites sociaux, vous dites pas le petit travail individuel. Donc, le fait de nationaliser est fondamental si on veut garder notre souveraineté et pouvoir agir. Et le dernier point, il y avait une question sur la gauche. Je connais un grand intellectuel dont le reste de charité chrétienne de faire vrai le nom, qui considère que le peuple français, la seule chose, il se porte très bien, il n'y a aucun problème. Je me souviens en 97 des manifestants pour essayer de sauver l'éducation nationale. Et ce monsieur était en train de dire à l'EMS qu'il n'y avait aucun problème en France, et ça qui était victime, c'était les immigrés, et ça c'est le français, c'est des privilégiés, on n'en a rien à foutre. Donc je crois qu'il y a des petits problèmes au sein même de la gauche entre guillemets.
On nous demande de participer à la lecture des constitutions. Ça a été mis pour le faire, moi j'ai pris les constitutions et éventuellement les élus de la Chambre des constitutions qui leur reviendra des ans d'écrire une constitution et de la présenter au peuple pour qu'ils puissent éventuellement s'exprimer là-dessus. Vous reprenez toutes les constitutions françaises, 11 constitutions en France, et 4 textes de nature constitutionnelle depuis 1789, etc. Vous les prenez toutes, elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Vous prenez celles des 5 républiques, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais quelques constitutions vous allez écrire, si vous n'êtes pas attentif au seul problème qui existe dans l'ensemble de ces constitutions, c'est qu'il y a toujours un gouffre abyssal entre la constitution qui nous est présentée et la mise en œuvre de cette constitution. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que un individu ne gouverne jamais seul, que ce soit dans une démocratie, dans une monarchie, dans une dictature. C'est toujours finalement une oligarchie une minorité qui détient le capital matériel et culturel, qui va s'approprier finalement des institutions pour les utiliser à son profit. Parce que Montesquieu disait, quand on a le pouvoir, on n'a qu'un seul objectif, c'est de le conserver et voire le développer. Donc le problème est le suivant, c'est que vous allez écrire le peuple français va écrire une constitution, s'il ne prend pas garde la manière dont il tiendra l'ascendant sur ses représentants, il se fera toujours contrôler. Donc l'idée n'est pas de contrôler ces représentants. L'idée, c'est de tenir l'ascendant sur eux. C'est-à-dire que quand ils vont dire quelque chose, eh bien, c'est votre parole qui s'exprime et non pas. Contrairement à ce que Seigneur disait, le peuple a ses valeurs et ses représentations en France. C'est plus la phrase exacte de Seigneur qui disait, en fait, le peuple n'a pas d'autre désir que celle de ses représentants. Ici, le peuple a ses propres désirs et ses propres visions des choses. Donc il ne faut pas le laisser comme ça au soin des représentants élus ou menés. Donc, vous écrivez une constitution, bien, si vous ne prenez pas garde à maîtriser cette oligarchie qui aura finalement le pouvoir entre les mains, dans 10 ans, dans 50 ans, vous serez encore amené à écrire une autre constitution.
Il y a inévitablement, et je crois pas qu'on ait un peu d'équité dans ce genre de réunion, un certain nombre d'ambiguïtés, et j'ai même tendance à penser que moi-même, quand je m'exprime, il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Je reprends d'abord ce que disait Pierre, Flair, à l'instant.
Il y a peut-être un côté naïf dans certaines manifestations, mais ça prouve quand même une envie.
C'est pas le côté naïf, moi, qui me gêne. C'est le fait que peut-être que c'est exprimé, on renvoie le pouvoir de le résoudre à ailleurs. Ils ne sont pas acteurs.
dans tout le problème de, pour moi, de la compétence, c'est de refaire que les gens soient citoyens qui actent. Il ne faut pas qu'ils soient citoyens et actes. Il faut que devenir un nom. Où sont les consensus? Alors, c'est un point sur lequel, mais alors là, pour le coup, je m'en vais là, sur lequel je suis en désaccord profond, c'est l'idée de la recherche du consensus.
Je suis d'accord.
La sincérité est dit par cette putain. Voilà. Et la démocratie n'est pas faite pour empêcher les conflits, elle est faite pour les résoudre. Et si on cherche le consensus, c'est inévitablement pour que toi, le plus bas possible, c'est d'ailleurs le prix du chargement d'intérêt, soit la dictature.
Mais
sur l'élaboration, moi je crois profondément, et ça répond peut-être un peu mieux que ce que j'ai dit tantôt sur la question de contre-pouvoir. La question de l'élaboration, non pas de vivre ensemble, j'avoue que moi je suis toujours un peu gêné par rapport à ça, d'une société, d'être membre d'une société, donc citoyen. Vivre ensemble, ça peut être dépasser nos différences, sachant vivre ensemble, notre différence, nos divergences, nous les connaissons à la mode, on n'a même strictement rien dans la constitution de la société. Comment fait-on société? Et on fait société en acceptant nos contradictions. Et quelque part, la question du contre-pouvoir, c'est aussi l'acceptation de ces contradictions, la manière dont on les vit, et la conception permanente du contrat social. Le problème, c'est que nous sommes plus dans la réalisation, dans un contrat. On est, je ne sais pas trop dans quoi on est d'ailleurs, on n'est pas dans un contrat social. Parce que on a accepté un certain nombre d'idées, hein, la contrainte de la mondialisation, la dette. Alors là, la dette, dès qu'on parle de la dette, il n'y a plus rien à dire, de toute façon, elle est possible. On est dans ces idées-là qui font qu'il n'y a plus de débat. Et quelque part, le processus constituant, peut-être pour mieux dire le processus que la constituant, le processus constituant est destiné à faire réapparaître les contradictions, les divergences, les oppositions, et donc à reconstruire le contrat social, c'est-à-dire comment une société accepte-t-elle ces contradictions, comment les fait-elle vivre. Quels sont les moyens qu'elle se donne pour que ce soit, disons, mais en permanence, pas comme actuellement, où on élit quelqu'un pour 5 ans, mais pendant 5 ans, on n'aura plus de rien. Ça, c'est pas possible. Aucune société ne peut vivre sauf à être en question, le cas, du moins. Ne peut vivre sur la charrette. Il faut absolument qu'on retrouve l'expression de nos divergences, l'expression de nos contradictions, qu'on les fasse vivre et qu'on trouve les moyens de les résoudre. En permanence. C'est ça une vie sociale. C'est pas, il y a les obligations, et puis, comme je reprends mon exemple, on aura le droit de voter pour la plante de verre, c'est dans la même, donc ça, honnêtement, je m'en fous. Quelqu'un qui n'admettra des documents, ça me paraît très bien. Voilà, je crois que ça, c'est important. Et on n'accepte plus cette idée-là parce qu'on a intégré en nous-mêmes l'idée que quelque part, il n'y a plus rien qui peut nous guider. Toutes les poses.
Alors, l'exemple de la dette, oui, c'est fabuleux. On se demande comment on peut faire quelque chose avec l'histoire de la dette qu'on crée nous-mêmes, d'ailleurs.
Il y a le plus de
oui, bon.
Mais on ne peut rien faire. Donc, il faut sortir de ça. Il faut accepter qu'il y a des choses qui se disent tout se la dessus. Ça veut dire tout se règle de temps en temps.
On n'avance pas comme ça. On n'avance pas, on a fait, si tu veux, on n'est pas acquis, parce que, alors peut-être que le bon consensus que j'ai exprimé ne conviendrait pas, mais si par exemple, je pose une question, qui était déjà au regard du cœur. C'est-à-dire, c'est comment rendre nécessaire, comment avoir une manière dans le débat public et dans la société de faire avancer cette idée d'une profession. On pourrait se poser la question de levier. C'est-à-dire, quels seraient un, deux, trois leviers qui nous semblent absolument nécessaires pour appuyer ce processus. Est-ce que ce serait des questions de transition énergétique? Est-ce que ce serait des questions de souveraineté européenne, de souveraineté? Est-ce que ce serait la question de la même? Est-ce que ce serait l'Europe? Est-ce que ce serait une question démocratique? Est-ce que ce serait juste un principe absolu de reprendre nos libertés? Et ainsi de suite. Et donc, tu vois, là, ça, moi, à un moment donné, j'ai envie qu'on en prenne et qu'on prenne chaque point et qu'on en parle ensemble. Voilà, c'est pas ça.
Juste par rapport à ce que vient de dire, c'est très intéressant parce que, en fait, quels sont les leviers? Le premier levier, ça serait qu'on essaye, comme disait M. tout à l'heure, qu'on essaye d'aller voir les gilets jaunes et puis de leur expliquer ce qu'ils pourraient gagner s'ils défendaient la démocratie. Pourquoi la démocratie est-elle à défendre? Tout simplement parce que les oligarchistes qui ont empêché depuis la Révolution française la démocratie de venir au pouvoir, ils l'ont fait avec un objectif bien précis. Ils ont d'ailleurs été énumérés publiquement, ils ont dit, si on donne la démocratie au peuple, ils veulent voler les riches. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, et donc les riches peuvent voler le peuple. C'est ça qu'il faut faire comprendre à la population. Parce que...
je crois qu'elle a trouvé tout seul.
Pardon?
Elle a trouvé tout seul.
Elle commence à comprendre. Quels sont les freins à la démocratie? Les freins à la démocratie, c'est la fainéance. C'est-à-dire que, au fond, quand vous êtes, par exemple, dans une copropriété, vous dites, bon, chacun va prendre son tour d'organiser la copropriété, ou alors, on va prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur, on va le payer, mais... on va payer cher, mais au moins, on va payer là, on n'aura rien à faire. Et c'est exactement ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que le peuple a délégué. On lui a dit qu'il faut déléguer. Alors, il n'est pas complètement taré, il a dit, bah oui, bah, on est là, et bon, bah, on va faire autre chose, on va établir un feu, quoi. Hein. Bon, on va inventer le téléphone portable, et puis on va passer nos journées, la télé, c'est vachement bien, c'est intéressant. Donc la démocratie, c'est ça, c'est de faire comprendre que s'il y avait la démocratie, eh bien, il pourrait y avoir l'égalité. Tout du moins, on pourrait la demander. Alors, moi, je voudrais aussi juste faire un petit parenthèse par rapport au débat sur la démocratie. Parce que pour moi, le débat n'est pas la démocratie. Le débat n'est pas démocratique parce que dans un débat, c'est toujours les plus gros, les plus grands, les plus forts, les plus grandes gueules, les hommes par les femmes, les primaires par les secondaires, qui sont toujours vainqueurs. Alors on raconte dans les entreprises cette histoire, là, on dit aux gens, vous avez 10 dossiers, chacun va étudier, vous êtes 10, vous avez chacun étudié 10 dossiers. Et un jour, quand vous avez étudié les dossiers, on vous met dans une pièce et on vous dit qu'il est 9h, vous sortirez quand vous aurez une solution démocratique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer avec le bordel pendant toute la matinée. Et qu'au bout du compte, on va dire, attendez, la sœur va aller bouffer, alors c'est pour son équipe. Bon, alors les grandes gueules vont la ramener, et puis voilà. Or, il existe des systèmes qui, dans une situation comme celle-là, auraient permis d'avoir une solution entièrement démocratique, où chacun s'était exprimé exactement au même niveau, si vous voulez, un jour, vous ferez une démonstration, chacun s'est exprimé au même niveau, et au bout du compte, on a un résultat qu'on peut adopter ou pas. Mais au moins, on sait quelle est la réponse à la question. Et dans la
dans la démocratie, ce qui est important, et qui a été cousiné par le club breton en avril 1789, c'est que on avait dit chaque personne qu'il faut à l'Assemblée a une voix. Il a sa confiance pour lui et il exprime sa voix. Et le lendemain du 2 avril, on a vu qu'il y avait les Bretons qui s'étaient groupés et qui avaient dit on va dire ça, on va répondre ça. Donc ils ont commencé à inventer un parti politique.
La discussion était celle de la vérification des pouvoirs.
Juste en deux mots, il faut se souvenir qu'en Bretagne, les oppositions étaient tellement fortes que la Nouvelle Breton n'a pas voulu venir aux États-Unis. Qu'est-ce qu'a dit les Bretons? Ils ont dit, faites attention au rapport de force. Il faut être uni. Et même ça va juste concernant le jeu de mots, c'est juste fort, c'est quoi. Non, mais c'est très important parce que on a évoqué tout à l'heure la question de la violence. Moi, ce qui me semble important, on est obligé de parler du rapport de force, et on est obligé aussi de parler du fait que l'opinion s'exprime. Et moi, je vous entends dire, ouais, la démocratie, je suis désolé. On ne vit pas dans une dictature, on ne vit pas encore, on n'en est pas loin. Mais on ne vit pas. Donc il faut aussi se rappeler qu'on a chacun une autre possibilité d'avoir notre opinion et de la discuter.
Il y a plusieurs demandes de parole. Je ne sais pas où, on voit l'heure qui tourne. Je pense avoir faim, certainement. Il va falloir trouver un terme à cette discussion. Donc, si elle voulait avoir un grand moi, je crois.
Et ces contradictions, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bellon, ces contradictions, il faut quand même les réduire en nombre. Si on prend toutes ces contradictions, on n'arrivera pas à faire une histoire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des partis. Les partis devraient, au départ, représenter des ensembles de contradictions, c'est-à-dire réduire les contradictions à une vingtaine dans une société, une quinzaine, et qui se décantaient au fur et à mesure des discussions politiques. Les partis ne sont pas inscrits dans la Constitution. Ils doivent être les la Constitution dit que les partis sont nécessaires à l'expression de la ces contradictions, c'est juste de l'existence de cela. Et ça, personne n'en a parlé. Parce qu'en ce moment, personne ne sait plus quels sont les clubs, comme le disait tout à l'heure, Et en mars, depuis 1945, elle a provoqué une mégouette d'entrée, et maintenant elle est arrivée au pouvoir. C'est ça, mais toutes ces analyses de classe ne sont faites parce que justement ceux qui ont le pouvoir sont les plus compétents et que par conséquent, ils se gardent bien de parler de ce problème.
On va faire circuler jusqu'au bout qui demande la parole. Hein.
Oui, parmi les contradictions, on aurait besoin d'être constate que la première phrase de la Constitution, la Constitution qui s'appelle, hein, diagnostic qui est posé. Le représentant du peuple français, constitué en Assemblée nationale, considérant que j'ignore l'oubli
ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, c'est posé, sont résolus d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Or, ceci, ça commence comme ça. Moi, la nouvelle députée, la députée de 2017, pour ce qui est 6 mois après sa prise de mandat, elle ne connaissait pas la charte de l'environnement. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est que nos représentants ne connaissent pas la Constitution. On leur donne, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, c'est pas la Constitution, c'est le règlement intérieur.
On est dans un monde de
synthèse. Il y a des questions de valeurs et de principes. Parce que là, effectivement, on parle des principes, la question des valeurs, il semble qu'on en sort un mot ailleurs dans le dialogue. Et la question du travail, on en parle que dans les préambules de 46,
Ce qui est la spécificité française, ceci, lors de l'abolition des privilèges, c'est qu'il a été déclaré que la loi était supérieure à la privilège, à la propriété, et non que si on comprend. Et je crois qu'avec l'Union européenne, on a le même choix, c'est que le contrat devient supérieur à la loi partout. Ce qui est, entre guillemets, la civilisation de cette
femme. C'est la démocratie.
C'est ça, la version il est dans ça. Voilà, exactement. Alors, le problème, c'est qu'on en revient à la question de l'outil de travail collectif. Quand il y a un contrat, j'ai été dans la recherche. Nous sommes fonctionnaires, chercheurs de droit national. Mais on est obligé d'accepter des contrats grâce à l'Union européenne. Quand vous avez signé un contrat, vous ne pouvez pas contester publiquement l'une des clauses. Le contrat fonctionne. Tandis que dans la loi, elle s'applique à tout le monde, mais vous pouvez contester publiquement les termes de la loi. C'est normal. Par contre, le contrat, vous ne pouvez pas. Donc, il y a une différence profonde. La loi s'applique à la minorité, mais la minorité a le droit de l'attaquer. Le contrat s'applique à tout, consensus, mais on ne peut le contester. Logiquement, le contrat, une civilisation fondée sur le contrat, c'est clair que le renard dans le poulailler. Parce que l'outil de travail, comme il a été privatisé, se retrouve dans le rapport de force immédiat. Et plus que autre chose, la concurrence, elle ne fonctionne que par rapport aux actionnaires. Parce que ni les travailleurs, ni les consommateurs, qui sont souvent les mêmes, ne peuvent passer leur temps à voir s'il y a un centime de moins sur le tel trajet. Donc je crois qu'il y a une réflexion à avoir sur le contrat et la loi, qui est la violation profonde d'une tradition d'intérêt et de pratique français.
Je me permets un instant de revenir sur le propos de mon voisin, parce que vous m'avez laissé relativement parfait, je ne sais pas vraiment quel est le propos, vous l'écoutez, vous avez de ma part, qu'on appelle dans le jargon, la hiérarchie des normes. Et vous avez évoqué la loi, le contrat, en venant dire grosso modo, sur un plan, entre guillemets, sociologique, philosophique, je vous rejoins, c'est entre guillemets la norme anglo-saxonne qui dirige le monde. Je résume votre réponse ici, mais par contre, bon, le hasard de ce pas juriste, c'est pas déjà, je n'ai absolument pas pensé, c'est lorsque vous dites, on peut, devant, pour l'essentiel des juridictions administratives, je t'apprécie, contester la loi, mais par contre, non, alors je n'ai pas oublié votre propos parce que vous avez le sentiment que vous avez dit que le contrat au lieu de entre guillemets une attaque.
Non, c'est pas ça. Je dis que je peux faire un article en France capitaliste
attaquant moi, disant elle mauvais, mais demander que la loi s'applique à moi parce que j'en ai besoin à un moment donné. Voilà, c'est ça qui pas
de carrément pour
la liberté de penser n'est pas altérée par la loi alors qu'elle est altérée par les contrats.
Donc voilà, c'est une approche sur le groupe des choses, c'est un talent
philosophique. Je reviens sur l'aspect concret de ce qu'on peut faire. D'abord, je suis d'accord qu'il ne faut pas atteindre la consensualité. Je suis en désaccord avec le fait qu'une société ne se construit que sur les gens. La preuve, c'est qu'on a une déclaration des droits de l'homme. Et que si, enfin, elle est peut-être à revoir, mais elle n'est pas parfaite, on peut la revoir, avec, mais c'est évident que là, si on n'est pas d'accord avec ça, c'est plus parfait. Une société est forcément fondée sur un accord sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas forcément la volonté de la démocratie. Faut pas croire que le peuple, ce qu'il veut, c'est la démocratie. Que veut le peuple, c'est vivre. Si on lui propose la démocratie, c'est parce que, et qu'il l'accepte, c'est parce que c'est la meilleure solution pour lui. Encore faut-il lui apporter des lignes. Moi, je ne suis pas capable. Si moi je pars à un gilet jaune et je lui dis voilà, il faudrait changer la constitution de l'enfant, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, je veux dire des très grosses bêtises. Donc, moi, ce que j'attends de la. C'est un soutien pour convaincre les citoyens qui font une nouvelle constitution pour ce pays, à l'instant T, qui résolve les problèmes des gens et qu'elle soit construite avec eux, évidemment. Pas du tout pour plaquer une constitution, alors voilà ce qu'il vous faut. Par contre, si on ne propose rien, c'est moins un début de travail qui a été réfléchi quand même par des gens un peu compétents, et bien il ne passera rien. Ceux qui ont un peu l'expérience d'avoir dirigé des hommes, ils savent que si on leur met pas un petit embryon de quelque chose, ils ne peuvent pas créer leur vie. Bon, c'est le cas de ça. Vous savez, dans une réunion de ces hommes, et vous leur dites, vous trompez une constitution, et ils vont vous dire, pour eux, c'est un fond immédiat. C'est ça qu'ils vont voir.
C'est une remarque historique, hein, pour rapport à ce qu'il y a eu. L'abolition des privilèges. La déclaration des droits de l'homme, si tout le monde en résulte, c'est parce que la destruction des châteaux et la grande peur, franchement, ne paraissent pas des événements particulièrement crédibles. Bon, c'est bien parce qu'il y a eu des contradictions que ça a amené à une synthèse et à l'émergence de quelque chose. Donc, bon, c'est ça l'histoire. Donc, ça veut pas dire qu'on reste en permanence dans le conflit. Et le conflit est créateur, quelque part.
Il est créateur. Il a bien fallu que l'entendre. D'accord.
Mais on sera accordé par quelque chose.
Le problème du consensus, c'est qu'on pose d'abord le consensus comme étant la seule vision de la règle du consensus, alors que le dissensus, c'est qu'on va confronter deux consensus.
Donc nous ne sommes pas du tout dans l'idée du dissensus et du consensus permanent. Nous sommes dans l'idée qu'on ne peut pas partir du consensus a priori. Il est matérialisé juridiquement. Donc, ça, ça demande du travail, du contact, du débat, etc.
Je veux dire, juste une chose, je veux dire, nous avons donc participé à une assemblée avec des réflexions tout à fait pensées, tout à fait fondées, qui ont circulé.
effectivement, la difficulté, c'est de faire émerger quelque chose. Les gens vous disaient, oui, mais vous comprenez, nous, les demandeurs de formation, on a besoin de travailler, on a besoin de s'inscrire, mais sur le fond, on est d'accord avec l'idée d'une constitution. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Et je pense qu'à l'association, on n'en est pas encore là. On en est au stade de la sensibilisation. Mais d'un autre côté, on ne se sent pas non plus l'autorité ni le droit d'encadrer les gens dans un sens ou dans un autre. Alors, je parlais sous le contrôle d'André.
Moi, ça me fait un peu peur quand je vous en parlais, les autres, de la référence. Est-ce qu'il faudrait convaincre, qu'il faudrait. Je trouve qu'il y a. À la fois, c'est un temps de notre vie sociale et politique qui est important. D'ailleurs, je me suis battu dans un milieu artistique, et le milieu artistique a été assez trouillard et réservé avec le mouvement. Je pense que ça a été un temps important. Mais je ne prends pas comme un jauge de citoyen français.
Et en particulier, ça a fait ressurgir un certain nombre de questions, la question des diables communistes, et d'une certaine façon, la question des choses. Et je ne crois pas qu'on veut faire du pardon de vous, c'est ça.
Moi, je vois des gens en commun à faire une idée. Je propose que. C'est ceux qui le souhaitent mettre leur coordonnées à André Léon. Et puis on peut poursuivre la discussion, tout comme le suggérait Pierre, informellement, autour de la société, en mangeant ou en buvant, ou les deux.
Enregistrement, c'est le 24 mars, non 21 mars, ce sera de l'enregistrement, 21h30.